Mirabel avec nous, la Camille, Morgane Létignan, Paul Mirabel, bonjour. Tanguy Passureau, Daniel Morin, et notre invité, Julien Pierre.
Bravo Julien.
Julien est notre invité avec un album de reprise.
Quel délice.
Et qui s'appelle Les Jours Heureux, où il nous offre des reprises de...
Mais boum, quand notre cœur fait beau.
Ou encore...
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Ou bien, à bicycler.
Quand c'est on partait vrai. De bon matin, quand on partait sur les chemins.
Sauf que lui, il le fait à la Julien Clerc.
Ouais. À bicycler.
On va en parler avec lui dans quelques instants, mais alors quel blind test pouvons-nous faire ? Est-ce que je me suis amusé
Julien
avec
Clerc.
Les originaux ?
Tous les Julien Clerc.
Tous non. les Julien Clerc.
Ouais, mais bon.
Et un alors, blind test d'une heure vingt.
Il y a...
Leïla ? Ouais. Goldman ?
Ça, ça derrière comment... nos fenêtres.
Morgane ?
Morgane ?
Zaz ?
Ouais.
Je croise et croise les doigts pour qu'à l'amour on chante des jours.
Je connais pas, mais il y a jour, il y a jour dans les titres.
Heureux,
c'est mais... Bah, jours heureux, même.
Jours heureux.
Ouais, c'est le titre. Ok, d'accord.
Nag.
Nag,
ça s'appelle Jour Zolé, ça. Et c'est Zaz. Qui chante ça?
Je trouve que la vie sert à rien.
Ouais, Ben Mazoué.
Ça y est, je
qui ça
sens,
Ben Mazoué.
Ben Mazoué, putain, j'ai compris Ben Mazoué.
Il a changé. Il a changé de soi.
Et le titre de la chanson,
c'est Jour Zolé.
Eh ouais.
Ah, ok, d'accord.
Qui chante ça?
J'ai une thématique.
Oh,
Céline Dion.
Non.
Elle est en feu, Morgane.
Ouais. Titre.
Chante.
Les jours heureux.
Ah non.
Leïla, Christophe.
Non.
Drôle.
C'est lui qui a fait.
Ah, c'est
ah, c'était toi.
J'ai cru du coup.
Ah ouais. Ah, c'est pas moi.
Morgane. Karen.
Jolie.
Oh.
Tu m'as
fait avoir plus de temps, mais je me suis dit,
mais oui.
C'est fou, je t'ai pas.
T'as pas senti que c'était pas dans le tapot non plus?
Non, non, mais ça a fait un côté Christophe.
J'ai pas d'oreille, moi, oui.
On a répété avec Nagui toute la soirée.
Les jours heureux. Titre.
Oui. Titre, ok.
Aussi bien de Zaz que de Ben Mazoué que de Keren Ann que de.
Daniel.
Ouais.
Vas-y, va voir.
Oui.
C'est moi la crème.
Ça.
Daniel ?
Ouais.
Yari Tamisoko ?
Non, c'est vrai, c'est genre.
On a pris le matelas pneumatique, la pompe pour matelas pneumatique, l'étui à pompe.
Paul de Berre, Paul de Laff.
Exactement.
Ah, ouais.
Paul de Laff.
Mais c'est tant mieux. Nos jours heureux. La tranche sur mer.
Un point pour Leïla, un point pour Daniel, trois pour Morgan. Paul, tout va bien. Tout va bien, je pense que t'es dans les clous.
C'est super encore ou pas?
Non, pas encore.
Ouais.
Je crois que c'est la première fois qu'on l'a dans le blind test.
Hélène Segarra?
Non.
Ce sont nos jours.
Daniel?
Ouais.
Bachelet?
Ouais.
Ah ouais.
Ce sont nos jours heureux.
C'est la première fois?
Non, je crois.
Si?
Non?
Ah, peut-être les corons.
Ouais.
Si, les corons.
Ouais, on a eu
les corons,
les chorons. On a eu les chorons, c'est vrai.
Les chorons de
Blanche. Pourquoi tu fais ça, toi aussi?
Les chorons de quoi t'habites?
Je voulais pas le dire.
J'ai tellement de messages.
Je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire.
Mais quand elle va dans une fête foraine, elle mange des chorizo. Et ça, c'est le super banco.
Bruel?
Non.
Ah, on aurait dit, ouais.
5 points.
Quand dehors, la nuit...
Daniel, oh, le Normand.
Oui, ouais. Bien joué.
Oh, victoire sur le Normand, c'est bon.
C'est Daniel.
C'est Daniel.
Il y a du sens.
Ça pouvait pas être Paul.
Ça a du sens.
T'inquiète.
Et je chante les jours heureux.
Quand tu penses qu'il a fait carrière.
Les jours.
Énorme succès, quand même. Ben, on l'écoute un peu.
À vivre à deux.
Ah, oh, pardon, victoire, je suis désolé. Victoire.
Ok. Merci.
De Daniel Morin sur ses jours heureux.
Et ce coup de cymbale.
Et merci
d'accueillir
Monsieur l'énorme présent. Je demande un J. Je demande un U. Je demande un L. Un I. Un E. Un N. Voici Julien Clerc.
Wouhou.
France Inter, la bande originale.
avec Nagui.
Julien Clerc nous rejoint après avoir montré sa pièce d'identité à l'entrée du studio. C'est très sérieux tout ça. Il faut passer par là, Julien, c'est plus court. C'est... Oui, c'est plus court.
Alors, fallait continuer maintenant.
Non, c'est parfait. Julien qui nous revient avec son nouvel album.
Mais beau, oui, quand notre cœur fait beau, tout avec lui du beau, et c'est l'amour qui s'éveille.
Ça commence avec Boum, ça finit avec Vienne.
Cela va faire une semaine, déjà que je suis seul à Vienne.
Alors, il y a Vienne, il y a Ostende, il y a Venise, on voyage beaucoup sur cet album. Est-ce que d'ailleurs c'est parti de là, Julien Clerc, d'un jour à Londres?
Ça c'est vrai.
Mais... on va faire un truc dingue, on va ouvrir le micro en plus de Julien Clerc. C'est un truc qui va être de la folie, vous allez voir.
Tiens, on essaye, chef.
Et on va faire de la radio, un truc dingue.
Non, mais ah ouais. C'est vrai que c'est arrivé, comme je le raconte, comme ça, un jour dans un taxi, mais c'est surtout que, si vous voulez, quand je suis à quelques deux ans d'un spectacle, j'essaie d'imaginer le spectacle. Bon, comme ça fait maintenant 50 ans et plus que j'essaie de divertir mes contemporains.
Et que vous réussissez surtout à le faire.
Quand je pense au spectacle, à l'avant, je me dis qu'est-ce que ça pourrait être le prochain spectacle. Et comme ces chansons-là me reviennent souvent depuis que je les entends, l'envie m'a prise de je me suis dit, il pourrait y avoir dans le prochain spectacle
quelques
une petite
reprises.
Partie comme ça dédiée
comme un tableau.
Si vous voulez, exactement. D'accord. Ce qui permettra forcément de faire des tableaux différents, vous avez raison. Et donc, voilà, c'est parti de là. En fait, c'est parti de la scène, comme souvent. Et après, je me suis dit, pourquoi pas les enregistrer après tout.
Voilà. D'accord. Et tout ça, quelques mois seulement, après la sortie d'un nouvel album que vous étiez venu présenter.
Oui.
Et tu seras mon refuge où que nous allions.
26e album, cette fois-ci de chansons originales.
Emmène-moi.
Oui, emmène-moi.
Ah ouais, mais moi j'adore.
Voir le Japon, ses cerisiers en fleurs.
Continue de voyager aussi dans cette chanson, mais j'ai trouvé la sortie, sincèrement, hein, c'est pas un reproche, c'est un étonnement. Après avoir attendu 4 ans d'un nouvel album avec des chansons originales, j'ai trouvé les deux sorties extrêmement.
Vous n'avez aucun sens du timing, c'est quand même étonnant pour un musicien. Hein.
Non. Il n'a pas le sens de la mesure, donc.
Bah oui, tu vois, mais c'est très trop bizarre. Loin. C'est étonnant.
Non, allez-y, mais écoutez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un coffret, en fait, j'ai pas envie de faire le représentant de commerce, mais. Il y a un coffret justement avec deux disques.
Il y a un coffret avec une brosse qui vous permet également de nettoyer.
Donc avec les deux disques, tout ça c'était à cause de la scène en fait. Donc,
d'accord.
J'espère que l'album dont vous avez parlé, qui s'appelle Terrien, va continuer sa carrière. En fait, dans le spectacle, il y aura
le cas, oui.
Un peu de Terrien, un peu de reprise et beaucoup de répertoire.
Très bien. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler de ces jours heureux et de cette tournée. Julien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas, Julien. Il y a une femme sur Terre qui ne vous aime pas. Elle s'appelle Morgane Cadignan.
Il était temps.
Très en forme.
Alors, mais je vais même vous dire, Julien Clerc, je ne vous aime toujours pas. Parce que la dernière fois, l'année dernière, je m'étonnais du fait que vous n'ayez écrit aucune chanson avec mon prénom à l'intérieur. Bien que je sois métisse et que j'aime bien danser sans t-shirt. Mais aujourd'hui, et comme malheureusement tous les jours, mes seins ne sont pas le sujet de cette émission. Vous venez nous parler des jours heureux, votre 27e album. Vous vous rendez compte, vous avez sorti plus d'albums que Paul ici n'a eu d'anniversaire. En revanche, c'est drôle de faire un album qui s'appelle Les Jours Heureux avec des chansons de Barbara, Brel ou Léo Ferré. Moi, j'aurais appelé ça Les Jours où on fait ce qu'on peut, quoi. J'ai lu une interview qui revient sur la jeunesse de cet album et c'est intéressant. Vous racontez, un jour, dans un taxi à Londres, je me suis mis à fredonner Boom en regardant tomber la pluie. C'est beau la pluie sur Londres. Alors, ouais, faut mieux trouver ça beau parce qu'en même temps, c'est quand même extrêmement souvent. Hein, on a rarement chanté la canicule dans le Yorkshire. Là-bas, Mélissa, elle danse en damar et en chaussettes. Et puis j'ai pensé à Vienne et à Barbara, puis j'ai dérivé jusqu'à Venise et ses baracoles chantées par Aznavour. Ça a dû être une course un peu chère en taxi, quoi. Parce que, franchement, la semaine dernière, j'ai fait Porte de la Chapelle, Belleville, ça m'a coûté 50 balles. Mais alors là, Londres-Venise, il devait être content, le gars, quoi. Une course à 1200 balles avec Julien Clerc qui fredonne sur ton cuir, il a de la chance. Moi, je mets 5 étoiles, mais direct, quoi. Ensuite, vous continuez. Est-ce un cycliste londonien qui m'a ramené à Yves Montand et à sa bicyclette? Peut-être. Ah bah, c'est pour ça que Julien Kidalgo, elle nous embête. C'est bon, Anne, vous m'entendez? C'est enregistré, l'album. Les places de parking maintenant, s'il vous plaît. Heureusement que vous avez pas vu passer un mec en Mercedes-Benz parce que vous auriez repris NTM. Et les Brigitte l'ont déjà fait, et vous entendre reprendre Mercedes-Benz au piano, je crois que Taratata n'est pas encore prêt, puis moi non plus. Ensuite, vous continuez de raconter en arrivant devant la gare Saint-Pancras. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je reprendrais pas ces chansons que j'aime, tous ces artistes qui ont été mes préférences? C'est fou les différences entre les gens. Vous arrivez à Saint-Pancras en vous disant pourquoi pas un album de reprise. Moi j'arrive souvent devant Gare du Nord en me disant pourquoi pas un sandwich au pain à 20 euros. Et en général vraiment la créativité s'arrête là. Ensuite vous terminez, quelle chance j'ai eu de les voir sur scène. Quelle chance j'ai eu de les connaître tous. Il y a des moments dans la vie où faut pas chercher plus loin que de retrouver le bonheur des jours heureux. Alors là je suis bien d'accord. Puis j'espère que vous réalisez, Julien Clerc, qu'il y a plein de jeunes chanteurs qui se disent déjà ça de vous. Ouais. Alors peut-être pas dans des taxis parce que je vous assure que Paris c'est devenu hyper compliqué, mais sur des trottinettes électriques pourquoi pas. Un mec en trottis qui se dit « Et pourquoi pas reprendre Julien Clerc ? Oh, trop tard, je l'ai renversé intentionnellement. » Bon, bah va falloir continuer à faire des albums, Julien.
Merci, Morgane Gagnon.
Du jeudi au samedi au Métropole à Paris. You're à 20h.
Formidable. You are my love, very, 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 very tard. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare.
Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur ce genre de d'album. La première des questions, c'est le choix des chansons. Alors, on a compris évidemment que cette poésie de présentation, de déambulation pour voyager à travers les chansons et se dire, bah voilà, le hasard de la vie, le taxi, la bicyclette, Venise, très bien. Ça, c'est la force poétique. Mais je vous connais un peu, je sais quel musicien vous êtes aussi. Vous posez des questions sur des tonalités, sur des tempos, sur des structures, sur le plaisir de chanter, sur ce qui pourrait aller avec votre voix, ce qui fait aussi que le texte, qui a toujours été votre talon d'Achille, puisque vous êtes essayé sans que jamais nous on entende d'ailleurs la moindre des chansons que vous ayez écrites. Ouais. Oui, enfin ça c'est vous qui le dites, nous on n'a jamais pu juger. Donc vous avez toujours choisi les auteurs, et de très grands auteurs et paroliers pour travailler avec vous, toutes générations confondues, que l'on pense à Maurice Vallée, Étienne Rodagy, Dabadie, ou plus récemment Vianney, Clara Luciani, donc vraiment le spectre est très étendu. Là, qu'est-ce qui vous a motivé justement ? Les paroles, le tempo, la tonalité, c'est pas que le souvenir, parce que vous en avez énormément de souvenirs de musique.
Oui, beaucoup de souvenirs de musique. Je devrais pas vous dire ça, mais normalement, personne ne peut faire mieux que les créateurs. Je ne plaide pas pour ma maison.
Non, c'est pas la meilleure phrase en promo, ça.
Bon, non, mais en même temps, c'est le choix du cœur. J'ai envie de dire que c'est le choix de la respiration. Il faut prendre les chansons qui vous vont chez les gens que vous choisissez, des chansons qu'à la limite vous auriez peut-être pu faire vous-même, dont vous êtes un peu jaloux. Il est évident que
c'est joli de
les,
dire
deux,
ça. Ouais.
Les deux chansons que j'ai choisies d'Aznavour sont des chansons où il est compositeur lui-même. Il m'a dit un jour, le jour où nous avions écrit une chanson ensemble, et qu'il était venu à la maison pour que je la lui joue, il m'avait dit, vous savez, j'ai eu trois grands compositeurs dans ma vie. J'ai eu Pierre Roche, qui était celui avec qui il avait débuté, j'ai eu Gilbert Bécaud, avec qui il a écrit une très bonne chanson, Aznavour, et j'ai eu Garvarens, qui était son beau-frère. Et je lui ai dit, mais Charles, vous vous oubliez. Parce que un des meilleurs compositeurs pour vous-même, c'est vous. Et les deux chansons que j'ai choisies, moi j'aime tout son répertoire, mais j'aime principalement...
Il faut faire attention à la phrase, Charles, vous vous oubliez, ça dépend aussi du moment dans la vie où on dit ce genre de phrase.
Non, vous oubliez un compositeur
d'accord.
important. Pour vous, c'est vous-même.
Donc il y a Formi Formidable que vous avez
oui, repris. Et que c'est triste Venise, il n'a écrit le texte sur aucune de ces deux chansons, alors que généralement il écrivait ses textes, mais il est le musicien par contre, il est le compositeur.
Et ça résonne chez le mélodiste que vous êtes.
Il est certain que toutes les chansons qu'il a écrites en tant que compositeur, je les adore.
Encore une fois, pour en revenir au choix de ces chansons et des interprètes, parce qu'on n'est pas dans une période chronologique déterminée, je pense à...
Si, quand même, en gros. On est là avec des gens qui sont tous...
Non, je parle des chansons.
Oui, mais
aussi,
eux,
les interprètes.
Eux, les interprètes, ou les créateurs de ces chansons,
sont le début
c'est la génération qui est née à peut-être, on va dire, après la guerre, entre les deux guerres.
C'est
en fait.
Ça, pour la naissance des interprètes, pas pour la naissance des chansons.
Non, la naissance des interprètes.
Voilà.
Et c'est tous des gens, en gros, qui sont dans ce spectre-là. Et pour moi, c'est l'âge d'or de la chanson française. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ils sont peut-être les uns et les autres un peu marqués, comme comme nous, je parle des gens de notre génération, par les anglo-saxons, parce que je me souviens que Beko me disait toujours qu'il avait une admiration sans borne pour Sinatra. Et puis après tout, Trainet a révolutionné la chanson française en amenant le swing des États-Unis. Donc les anglo-saxons étaient présents aussi pour eux. Mais malgré tout, ça a été moins embarrassant dans le bon terme, dans le bon sens du terme, que le rock'n'roll. Nous, je veux dire, on ne peut pas faire sans le rock'n'roll, notre génération. Qu'on le veuille ou non. Eux, c'est l'âge d'or de la chanson française pour moi, parce que c'est typiquement la chanson française, c'est un truc que les anglo-saxons ne savent pas faire, ne peuvent pas faire.
Et nous jalouses d'ailleurs, parce que les anglo-saxons adorent ces chansons cultissimes. Chris Martin, le premier, le chanteur de Coldplay, adore ces chansons.
Et Brel et tout ça.
La tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras.
Il y a quand même un point commun dans les textes de ces chansons. On est essentiellement autour des histoires d'amour, de couple.
Oui, beaucoup. Voilà. Enfin, vous savez comme moi que l'amour est un thème qui durera le temps que durera l'humanité et qu'on peut constamment faire des choses nouvelles autour de ce thème récurrent qu'est l'amour.
Oui, mais enfin, il y a aussi des chansons qui parlent de beaucoup d'autres choses. Je pense à Brassens, par exemple, que vous aimez également.
Que j'aime sans limite, mais là, il y a deux choses. Il y a eu un truc, Brassens, bien que beaucoup de ses chansons aient été écrites au clavier, en place, et après transposées à la guitare.
C'est pour ça que beaucoup de guitaristes ont du mal à reproduire les accords joués par Brassens,
mais
composés au piano et interprétés à la guitare.
Mais là, il y avait un truc d'éthique, c'est-à-dire que je ne pouvais pas piquer ça à mes amis Le Forestier et Renaud, qui font beaucoup mieux que moi. Mais Brassens, bon, en tant que compositeur...
Personne n'a préempté personne.
Non, mais je dis ça pour rire. Mais
on n'a pas ri à ça. vous avez une meilleure vanne.
Concentrez-vous sur les chansons, arrêtez avec les blagues.
On a assez de déconneurs autour de cette table.
Ah oui, il y a Paul, là.
Allez-y, Julien.
Je pense que
Brassens... Oh, vas-y, t'as qu'à défendre Julien.
Bien sûr, je le défendais tout seul, là, face à vous.
Je pense que Brassens... qui m'a beaucoup marqué en tant que compositeur, cadre moins bien avec moi, bien qu'il fasse tout à fait partie de mon ADN, mais c'est plus secret, on va dire. Ça cadre mieux les autres, ceux que j'ai choisis, cadre mieux avec moi. Je pense que j'aurais été moins bon que Maxime ou Renaud pour reprendre les chansons de Brassens, et Dieu sait que je les connais par cœur.
Voilà. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Et de toutes les chansons de l'album, je trouve que c'est celle-là qui vous va le mieux. Dans la mélodie, dans la manière de chanter, dans la fragilité de l'histoire racontée. Sincèrement, c'est-à-dire, je suis très franc. Hein. Autant, boum, je me dis, bon, il s'est amusé, il s'est lâché, il a mis un peu de gaieté pour ouvrir l'album. Et puis d'un coup, là, se dit, quand reviendras-tu? Mais ma...
ramassé.
Ah ouais, mais totalement. Ouais. Retourner, ramasser, renverser, tout ce que vous voulez, mettez tous les qualificatifs.
Je suis comme toi, mais après je me suis demandé dans quelle mesure aussi la chanson originale m'a tellement aussi touchée que tout d'un coup,
c'est pas la portée de tout le monde de chanter
rechanter et réinterpréter comme ça, je l'ai trouvé aussi très forte.
Mais je vous parlais de respiration tout à l'heure, on va dire que le cas de Barbara, c'est vraiment c'est le plus évident pour moi.
Expliquez-nous ce que vous appelez la respiration.
Écoutez, c'est la respiration.
Les amateurs que nous sommes.
C'est il faut adopter une certaine respiration pour reprendre les chansons de Barbara, en particulier celle-là. J'ai tellement écouté Barbara en faisant mes devoirs, je me souviens que, vous savez, quand je compose un album maintenant, au bout de toutes ces années, quand je me mets derrière mon piano, je traque les réminiscences. D'abord, je traque mes propres réminiscences pour ne pas retomber dans mes propres
pas tourner en boucle et faire les mêmes effets.
Voilà. Ouais. Mais je traque aussi les réminiscences des autres, de toutes les musiques que j'ai écoutées dans ma vie, dont certaines qui m'ont marqué plus que je ne l'aurais voulu.
Oh, alors, quelle est la frontière entre le plagiat et la référence et la racine musicale? On a le droit d'avoir
C'est les bouts de mélodie, si d'accord. Vous voulez. Vous avez des bouts de mélodie qui vous reviennent, qui, malgré tout ce que vous pouvez faire. Et c'est ça qu'il faut traquer. Il y a des moments où vous vous dites, mais ça, j'ai déjà entendu ça. Mmh. Donc il faut constamment être à l'affût de ça. Et souvent, moi, c'est des bouts de mélodie de Brassens, dont on parlait tout à l'heure, et d'elle aussi, de Barbara, beaucoup. Et quand je parle de la mélodie, c'est le débit, si vous voulez, qu'il faut pour chanter les chansons de Barbara. Il y a un débit précis, et moi je l'ai presque de face. Je l'ai tellement écouté, c'est tellement en moi, que j'ai pas eu de mal à chanter cette chanson-là.
Il y a aussi quelque chose qui est imperceptible, alors je ne sais pas si c'est notre imaginaire d'auditeur qui fonctionne comme ça, mais il y a des histoires qui sont crédibles aussi dans la voix d'un interprète.
Tout à fait.
En se disant, ça peut lui être arrivé, il peut à un moment donné avoir ressenti ce qu'il chante et le chanter avec quelque chose en plus que simplement des cordes vocales, et il y a cette sincérité qui vient nous toucher. Voilà, se dit quand ces paroles sont indescriptibles tellement elles sont belles, on va pas faire une analyse de texte, mais on imagine qu'elles ont une
résonance. Faut les ressentir particulièrement, on va dire.
Clairement.
Tout à fait, tout à fait. Mais enfin, ça a été le cas de toutes ces chansons. Mmh. C'est le choix du cœur, vraiment. Parce que c'est ce qui doit...
Oui, mais comme à Ostende, par exemple, où c'est une véritable... Enfin, c'est une histoire, quoi. C'est comme un scénar avec le rencontre, avec cette...
Mais là aussi, il y a une respiration précise. Moi, Léo Ferré, j'ai tellement écouté aussi Léo Ferré, avant même de commencer à faire moi-même de la musique, que ça m'a marqué pour toujours.
Si c'est utile.
Puis la force, c'est que vous interprétez ces chansons et ça devient du Julien Clerc. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas la version originale, les nouvelles générations peuvent entendre ces chansons en disant « Ouais, elles sont bien, j'adore », sans connaître les originaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, parce que ça ressemble, enfin, la manière dont vous le faites, c'est pas dans l'imitation, vous les appropriez.
Oui, je me les approprie. Quand j'avais commencé, je venais de signer en 1968 mon contrat avec Pathé Marconi, et ils m'ont tout de suite demandé de participer à un album hommage à Trainet, justement. C'est incroyable, je me souviens de ça maintenant. Et il y avait un directeur artistique à l'époque chez Pathé Marconi qui s'appelait Pierre Bourgoin. Donc je venais de signer mon contrat. Et tout de suite, j'ai participé à ce disque que voulait sortir la maison de disques. Et donc, je sais plus d'ailleurs la chanson que j'avais choisie, je crois que c'était... Je m'en souviens plus maintenant. Mais
Là, je connais pas celle-là.
Et je m'en souviens plus maintenant. Et donc, et le directeur artistique de la maison de disques m'avait dit, c'est drôle. Alors que j'étais vraiment tout jeune artiste, il m'avait dit, c'est drôle, cette chanson, on dirait que c'est vous qui l'avez faite. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est dû à ce son de voix étrange que j'ai, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui existe. Et qui m'a été donné. C'est pour ça que je le travaille de façon féroce, constamment,
c'est
parce
vrai.
Que je sais que ça, c'est un des trucs qui m'a été donné par la nature.
Ouais, ce qui vous a été donné par la nature, ce sont vos cordes vocales. Ce qui est donné par votre mentalité, votre abnégation et obstination, sont les cours de chant.
Ouais.
Ce qui m'a toujours bluffé, c'est que j'ai eu la chance de vous accueillir souvent dans des plateaux de musique et de taratata. Systématiquement dans votre loge, et je crois au téléphone avec votre prof de chant,
ouais, mm-hmm.
Vous chauffez votre voix, vous prenez un cours de chant, mais enfin vous
pratiquez. Ben, je travaille. Mais
ouais,
c'est
mais enfin, il y a plein de gens qui pensent d'abord que ça tombe comme ça tout cuit du ciel et qu'il n'y a pas de boulot derrière. Comme des gens pensent que les Messi, les Ronaldo ne font que marcher à l'entraînement.
Voilà, exactement. Et moi, c'est pour ça que je cite toujours l'exemple. Je cite l'exemple de Federer quand on me pose ces questions-là. Mais on pourrait tout à fait dire Messi aussi, puisqu'on parle des gens qui sont toujours dans une carrière avec un certain âge pour le sport, par rapport au sport.
Je pensais à la quête d'excellence, moi, plutôt qu'à l'âge, en l'occurrence.
Ouais. Mais enfin, là, il se trouve que tous les deux, ils ont un certain âge et qu'ils sont toujours dans le circuit. On a, quand on est tennisman, qu'on est doué, la nature vous a donné, par exemple, on va dire, une vitesse de bras. Mmh. Bon, vous avez ça. Vous avez une vitesse de bras qui est plus grande que le voisin qui fait la même chose que vous. Mais si vous travaillez pas, vous allez à perdre votre vitesse de bras. Vous allez perdre. Vous n'avez pas que... Il y a le don, d'une part, mais il y a le travail. Et je crois qu'à la longue, le travail est plus important que le don.
Et quand est-ce que vous avez commencé, justement, à travailler votre voix?
J'ai commencé à travailler ma voix. Je chantais déjà depuis un certain temps. Mmh. Et à l'époque, j'étais encore jeune, je faisais quelques imbécilités qui pouvaient mettre la voix en danger.
C'est quoi les imbécilités? C'est fumer?
Je prenais des choses, oui, je fumais et d'autres choses. Et donc ça, c'était pas bon du tout pour la voix.
Outing de Julien Clerc.
Non, mais j'en ai déjà parlé.
Vous l'avez déjà dit.
Ouais, oui, j'ai déjà dit, sans compter que c'était pas non plus...
De la bonne cocaïne, vous avez pris de la merde quand même, il y a un moment où...
Non, mais c'est surtout que j'ai eu de la chance dans la vie, c'est que j'ai pas une nature d'addict, si vous voulez. Bon, ça, c'est un coup de peau.
Donc, non, vous avez surtout une force de caractère incroyable aussi. C'est-à-dire, vous êtes capable de vous dire je tombe dans des excès, mais vous êtes capable de, vous avez la force mentale de dire j'arrête et je garde le contrôle.
Oui, mais et pas que ça ne me coûte
pas que pour
pas.
Ça. Non,
il y en a qui peuvent pas avoir ça. Voilà. Même s'ils ont la force, complètement. Après, quand on est naturadique, comme disait Julien,
ça ne me coûte pas.
J'ai
la chance d'avoir une nature un peu bien. Ouais, j'ai quand même une partie de moi qui a les pieds bien dans. Voilà. Donc, si vous voulez, ça m'a pas coûté d'arrêter tout ça. Par contre, on m'a fait comprendre avec les mots qu'il fallait à l'époque. Vous avez une chose qui vous a été donnée dans la vie, c'est cette voix. Ça serait criminel de ne pas la travailler. Voilà.
Ouais. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Et ce qui est incroyable et ce qui est fort, et ça c'est la force de la musique, c'est qu'elle vous donne le sourire, elle vous apporte elle vous met des larmes aux yeux, elle vous crée des émotions, elle nous met dans des états incroyables la musique. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire, on peut pas entendre À bicyclette sans avoir un petit sourire de légèreté, de balade campagnarde comme ça.
C'est cette attitude qu'il a fallu adopter au moment où on a fait les voix, évidemment.
Retrouver le sourire dans la voix.
Retrouver le sourire dans la voix et cette espèce de légèreté, cette chanson qui arrive de nulle part, c'est incroyable. C'est une chanson. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte rien.
D'une bande de garçons.
C'est très léger.
Amoureux de la seule fille de la bande.
Mais c'est une musique géniale. Ouais. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une musique de Francis Lai. Hein, et ça, elle a le charme qu'ont certains énormes succès, même internationaux, de Francis Lai. Donc il faut se mettre dans ce truc-là. Mm. C'est une chance, en fait, d'avoir dédié sa vie à la musique, et encore une fois, d'avoir une voix particulière. C'est que le travail n'en est pas, si vous voulez. Je suis obligé de dire ça, c'est une chance dans la vie. Et quand on parlait des cours de chant tout à l'heure, c'est du travail, mais ça n'en est pas. C'est
vous parlez beaucoup de cette voix particulière, comme si c'était un défaut qu'on vous avait reproché, et que vous en aviez fait. Alors, est-ce que ce défaut-là, ou ce reproche-là, si ça a été le cas au début, on vous l'a reproché?
Non, mais on se moquait de moi au début, mais c'est normal.
Il y avait le luron qui s'amusait
Si on se moquait de cette voix, c'est parce qu'il y avait un succès qui était
non,
au goût.
Non, mais pas que ça. C'est vrai qu'elle bêlait un peu plus qu'elle ne bêle maintenant.
Non, il y avait clairement, c'était dit. C'est voix de chèvre. La vanne était extrêmement violente. Mais alors, ma question, puisque vous faites une allusion tout à l'heure à Roger Federer, je repense à une interview qui m'avait marqué de Yannick Noah dans les années 80 où il parlait avec des gamins et dans un cours de tennis, et le gamin disait voilà, moi normalement je fais les revers et les coups droits à deux mains, mais le prof veut pas, donc je fais des efforts. Et Yannick, qui est votre ami, avait dit mais si c'est ton défaut, plutôt que de chercher à le transformer ou à le rectifier, travaille ton défaut. et deviens le meilleur avec ce défaut. Et je trouve que cette phrase-là est d'une intelligence.
Bien sûr, c'est très intelligent.
Parce que c'est cultiver sa différence, c'est de ne pas être dans les sentiers battus, justement, et peut-être que cette voix qu'on vous a tant reprochée ou dont on s'est tant moqué avant, fait que c'est votre marque et que dès qu'on vous entend, ça devient du Julien Clerc et que c'est estampillé.
Oui, vous avez raison. Par exemple, Aznavour parlait tout le temps, au début, on l'a énormément emmerdé avec sa voix. Mmh. Aussi.
Avec sa voix, avec son physique, avec son nez, il s'est tout pris.
Voilà, j'ai vu par exemple Adamo qu'on emmerdait. Mmh. Moi, j'ai vu des critiques d'une dureté terrible.
Jean-Jacques Goldman.
Jean-Jacques Goldman qui avait même fait
publié la page.
Un programme, oui, un programme où il y avait toutes les méchancetés écrites qui s'appelait Merci d'être venu. C'était génial.
Donc, d'être venu quand même, parce que c'était, c'était toutes les critiques qui disaient voix de châtrée, il chante faux, c'est insupportable, sortez les bouées de sauvetage, ça va être une catastrophe. Jean-Jacques Goldman en tournée. Il avait fait sa tournée sans aucune promotion. Et le dernier jour au Zénith, archi complet pendant une année complète, il publie une page dans Libé avec le nom des journalistes. Je pense à Patrice Delbourg de l'événement du jeudi qui vraiment avait été le plus agressif avec lui et méchant, presque physiquement aussi, et en écrivant de sa main légendaire, merci d'être venu quand même. JJG, ça calmait tout le monde.
Cela dit, moi, j'ai jamais été attaqué aussi méchamment. On peut dire, moqué. Bon.
Sauf que vous dites que vous avez atténué un peu du coup votre vibrato avec le.
Non,
temps.
Mais c'est venu avec les cours. J'ai mieux compris comment. Parce que moi, je chantais instinctivement. Mmh. Donc, je réfléchissais pas. Vous pensez bien que je faisais pas exprès de vibrer. Donc, je faisais ce que je pouvais. C'est après, quand j'ai pris des cours de chant, tout d'un coup, que j'ai compris un petit peu mieux comment ça fonctionnait ce vibrato et que vraisemblablement que si j'avais pas pris de cours. J'aurais exagéré pas un défaut d'ailleurs, mais c'est le vibrato est naturel chez moi. J'ai compris qu'on pouvait le contrôler un peu selon les voilà.
Mais c'est quand même votre patte.
Signature.
Bah voilà, c'est ma patte, mais c'est un truc complètement instinctif.
Ouais. Hein, il paraît que même Apple vous a contacté hein, pour le vibrato. On va continuer d'évoquer les jours heureux, le nouvel album de Julien Clerc, et puis la tournée, puisque vous serez à partir du 10 décembre au Palais des Congrès en concert, et puis en tournée ensuite en 2022 dans toute la France. Mais d'abord, voici Paul Mirabel.
Alors, une des idoles de mon fils. Ouais, je dis, voilà, je ferme. Des idoles de mon fils, 13 ans. Voilà, ça doit vous faire plaisir.
Une des idoles de ma maman, plus que 13 ans. Mais... bonjour Nagui, bonjour Elena, bonjour Paul. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien?
Extrêmement.
Mais écoutez, moi aussi ça va, je vis des jours heureux.
Tant mieux.
Juste en tant que professionnel de l'investigation, j'ai vu qu'il y avait un nouveau variant qui circulait, là, le variant Omicron. Et en y réfléchissant, je me suis dit, les variants, ils ont quand même de plus en plus de noms de méchants dans les films. Omicron, normalement, c'est pas le nom d'un variant, c'est le nom d'un méchant dans Avengers. Après, ils sont obligés de lui donner un nom un peu agressif, je pense, puisque si tu l'appelles le variant Astérix, ça t'incite moins à la vaccination quand même. T'as envie de l'inviter à déjeuner du sanglier et de la potion magique. Sinon, figurez-vous que j'ai eu 26 ans il y a quelques jours.
Mais non.
Et oui, et je vous avoue que je suis le premier surpris de cette information.
Bon anniversaire.
Merci. Ah ouais. Puisque dans mon dernier souvenir totalement clair, j'ai 5 ans et je cours tout nu sur une plage à la Grande Motte, avec quelques personnes autour qui se disent, tiens, est-ce qu'il serait pas un peu vieux pour avoir le zob à l'air, celui-là? Puis j'ai fait 2-3 activités, quelques chronique sur France Inter et hop, d'un coup, 26 ans. J'étais obligé de faire un petit bilan intermédiaire de vie du coup. Alors, à 26 ans, figurez-vous que Samuel Umtiti était champion du monde. Moi, à 26 ans, j'ai appris que le mot kayak se lisait dans les deux sens. Et ça m'a clairement suffi pour passer une bonne journée. J'ai des amis qui m'ont fait une superbe surprise, sinon pour l'occasion, d'ailleurs j'en profite pour les remercier à l'antenne, c'est qu'ils me l'ont pas souhaité. Il y en a même un qui m'a posé une question très étonnante d'ailleurs, il m'a dit « Est-ce que c'est ton anniversaire aujourd'hui ?» Et je vous avoue que même moi, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que tout ça, ce serait pas un complot pour m'inoculer la 5G? Ils ont tout de même prévu de me rendre visite à Paris ce week-end pour l'occasion. Ce qui, quand tu viens de province, s'apparente plus d'ailleurs à l'organisation d'une mission spatiale internationale. Je crois que même Thomas Pesquet, il s'est préparé moins longtemps pour aller sur l'ISS. Il a pris 2 caleçons, 3 chaussettes. Il s'est dit, ça va, je pars pas non plus à Paris. Puis là, c'est un petit événement parce que j'ai des amis qui ne viennent jamais à Paris. Je crois que la dernière fois qu'ils sont venus, il n'y avait pas encore la Tour Eiffel. De mémoire, ils avaient même croisé Louis XVI à un feu rouge, très gentil le mec, hein, vraiment tranquillement assis sur une calèche en train de discuter avec Michel Drucker. Alors comme ça, toi ton style de canapé c'est plutôt le rouge, Michel. Mais ça me permet quand même de réaliser que l'amitié c'est une source de richesse et de bonheur inépuisable. On dit même que les amis c'est la famille que l'on se choisit. Mais je me faisais cette réflexion en voyant les miens récemment. Dans un groupe d'amis, il y en a toujours un, on sait pas vraiment pourquoi il est là. Et plus les années avancent, plus tu oublies de qui c'était l'ami à la base. Ça vous arrive très certainement aussi. Parfois, tu as un dîner avec des amis et tu te dis, lui, heureusement que je le connais depuis longtemps, sinon on ne serait pas forcément devenu amis plus tard. En fait, je l'aime bien parce qu'on est amis, mais on n'est pas forcément amis parce que je l'aime bien. Moi, j'ai fait le bilan récemment. Là, j'ai un groupe d'amis dans lequel on est 10. Je pense que dans le lot, il y a 2 cerveaux. Et je m'inclus même pas spécialement dedans. Hein. Il y en a déjà un. On s'est tous accordés sur le fait qu'un jour, on va le perdre dans une soirée déguisée et qu'on va le retrouver 10 ans après sur une plage en Thaïlande avec le même t-shirt que quand on l'avait perdu, en train de dire « Mais bien sûr que c'est légal d'avoir un tigre de compagnie, madame. » Moi, j'ai un ami, par exemple, qui s'appelle Hubert, que j'aime et que je salue, bien évidemment. Là, il est 11h30, il doit être assis sur un canapé en train de se demander quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Et dans un groupe d'amis, il y en a toujours un qui te fait dire « Si un jour, pour sauver l'humanité, il faut en sacrifier un, et ben moi c'est Hubert, voilà.
Sympa.
La dernière fois j'ai essayé de faire un pas vers Hubert en plus, c'était clairement non assistance à personne en danger. Je lui dis est-ce que tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Il m'a répondu d'accord, je te confirme ça demain matin. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, de toute façon kayak ça se lit dans l'île de Sens et si un jour il fallait le chercher en Thaïlande, tu prends 2 caleçons, 3 chaussettes et finalement c'est pas si loin. Donc vive l'amitié, vive les jours heureux et merci tout le monde de m'avoir écouté.
Merci.
Et Paul Mirabel, tu seras à l'Olympia en décembre 2022 et en tournée aussi dans toute la France.
Oui.
C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre.
Avant Noël, justement, le 2 décembre, Julien Clerc sera en concert au Zénith de Rouen, le 3 décembre au Zénith de Lille, le 4 décembre à Bruxelles, au Forest National. J'aime bien parce que...
Que des petites salles.
Non, c'est ça, c'est des grandes salles, mais surtout avec des pures ambiances, c'est-à-dire Forest
et enfin, là, et ça a été les Zéniths ont été déplacés, pardon, vous avez donné des mauvaises dates.
Ah, pardon.
Ont été déplacés à la fin de l'année, sauf celui de Lille, parce qu'il faut quand même une salle pour préparer...
D'accord.
Où nous pourrons faire le spectacle avant Paris. Mais après, les Zéniths dont vous parlez ont été déplacés en novembre, donc, en décembre, et c'est... Ça va commencer en février. Les dates de février sont bonnes, mais...
D'accord.
Voilà.
Alors, juste pour être clair, est-ce que Lille a lieu ou pas en décembre ?
Ouais, Lille a lieu tout à fait vendredi prochain. Voilà.
D'accord. Voilà. C'est formidable et ça sera donc le 3 voilà. Avec, on imagine, une formidable ambiance.
Oui.
Te chercher.
Je l'adore, celle-ci.
Le Palais des Congrès est maintenu.
Tremblant
oui.
Comme un jeune marié.
Les 10, 11 et 12 décembre.
Mais plus riche qu'au jour passé.
Puis en tournée, janvier, février, mars 2022, avril également.
Oui.
Et de larmes et de temps. Je reviens te chercher.
Les ça jours fait... heureux, oui. Oui,
non, c'est parce que j'écoutais cette chanson et ça me fait plaisir parce que c'est une chanson qui est très aimée en ce moment, qu'on redécouvre. Ça veut dire qu'on va redécouvrir le talent de compositeur de Gilbert Bécaud, qui était un petit peu dans un espèce de purgatoire.
Dont vous avez fait la première partie.
Oui, plein de fois. C'est la personne que j'ai vue le plus travailler, on va dire, parce que là, c'était quand il faisait son spectacle, et surtout moi, à l'endroit où j'en étais de ma vie à l'époque, évidemment, prendre une chaise et le regarder faire était à la fois une joie, mais aussi, j'allais à l'école, hein, je regardais faire, donc c'est la personne que j'ai vue le plus travailler sur scène. C'est
pourquoi le purgatoire? Vous parlez du purgatoire pour Gilbert
Parce que
Bécaud.
Je trouve que par rapport à d'autres artistes de sa génération, comme Aznavour, par exemple...
Il n'est pas assez reconnu.
Il a été un petit peu mis dans un purgatoire. On a oublié que, par exemple, Bécaud, c'est sans doute, c'est même certainement, le compositeur français qui a le plus de reprises aux États-Unis.
Et maintenant, What Now My Love?
Maintenant, bien, pensez que Bob Dylan et Elvis ont chanté... je t'appartiens.
Oui, non, et puis je me souviens avoir fait un taratata avec Gilbert Bécaud et il y avait Chris Isaac qui était sur le plateau et le gars était mais il était tremblotant de s'approcher de Gilbert Bécaud.
Il faisait peur Bécaud. Hein.
Mais
justement, alors, comment on explique ce purgatoire? C'est quoi? C'est ça, son tempérament? Il est toujours décrit comme quelqu'un d'un peu fiévreux qui pouvait s'embrouiller facilement.
C'était un méridional quoi.
Ça vieillit moins bien si vous voulez. Peut-être que Aznavour a géré vis-à-vis de l'extérieur, dans sa communication, mieux le temps qui passait que Gilbert. Gilbert, c'était un révolté, c'était un rebelle. N'oublions pas qu'on avait cassé des fauteuils pour lui à l'Olympia. Il a été le premier. Mmh. Il cassait les pianos. Quand il jouait tous les premiers pianos, vous savez, les tournées qu'on faisait dans, à cette époque-là, c'était souvent dans des théâtres. Et on n'arrivait pas, comme aujourd'hui, avec notre propre matériel. Ouais. Donc, on lui fournissait un piano. Il m'a toujours raconté. Il m'a dit, dans toutes ces tournées-là, toutes ces premières tournées, les pianos qu'on me fournissait, c'était dégueulasse. Je les cassais systématiquement chaque soir, en me disant, l'année prochaine, j'aurai un piano neuf quand je viendrai dans.
Ah oui, d'accord.
Donc, il était comme ça. Quand il parlait de Piaf, on savait que Piaf avait découvert, et lui et Aznavour, lui était à l'époque pianiste du mari de Piaf, qui s'appelait Jacques Pils. Elle les emmenait en tournée parce qu'elle avait un très grand talent pour repérer les futures stars. Elle leur faisait porter les valises, elle leur faisait faire les éclairages. Attends, t'as été gentil aujourd'hui, tu pourras chanter deux chansons en première partie. Eh ben, c'était mieux vécu par Aznavour que par Gilbert. Ouais. Gilbert, quand il en parlait, je me souviens, il y avait encore un fond de révolte. Mmh. Donc, il a géré, si vous voulez, moins bien vis-à-vis de l'extérieur le temps qui passait. Aznavour, il devait avoir 30 ans quand il a écrit sa jeunesse.
Ouais.
Bon. Et Gilbert, il recherchait un peu les tubes encore vers la fin de sa carrière. Donc, il s'est mis un peu tout seul là-dedans. Il n'en reste pas moins. C'est un des plus grands compositeurs de la chanson française.
C'est intéressant l'analyse de la musique et de la chanson française par Julien Clerc. On la fera également cette analyse avec Christophe Comte qui sera notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, la musique que vous écoutez, elle n'est pas que la musique de l'entre-deux-guerres. Par exemple, vous avez écouté les Bee Gees. On est en 78, Leïla.
On est en 78 et vous sortez l'album Jaloux, Julien Clerc. Votre premier gros succès en matière de vente avec le titre Ma préférence.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois
vous
déplaît.
Ça a pas mal marché.
Autour d'elle et moi,
il aurait dû sortir en single, moi je m'y connais.
Un titre que l'on doit en partie à Jean-Luc Dabadie.
Pour le texte.
Pour le texte, ouais. Absolument. C'était aussi le début d'une collaboration avec Jean-Luc Dabadie après de longues années avec Rodagile.
Ouais.
C'était un peu la transition aussi, c'est changer un peu de partenaire, quoi. C'est un peu comme dans une vie amoureuse, non ?
Non, mais c'était que on a travaillé pendant 10 ans avec Étienne. En se disant beaucoup de choses par chanson interposée tous les deux.
Ouais.
Pardon. Et toute ma vie, j'ai recherché des mots à mettre en musique. Il était normal, je crois, à partir d'un certain moment, d'ouvrir la porte à de nouveaux styles, de nouvelles façons d'écrire le français.
Est-ce que c'est lui le premier qui vous a fait dire « je t'aime » dans une chanson ?
C'était un petit peu ça.
C'était
un petit peu son défi, c'était sa feuille de route, me faire dire je.
Je t'aime que Rodin ne voulait pas vous faire chanter.
C'est vrai, il trouvait ça chic qu'on dise pas je t'aime. Ouais.
En 84-85, vous écoutiez.
Ils n'ont jamais vu.
Et vous chantiez.
Ils ne savent même plus sourire. Il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands.
Des chanteurs sans frontières pour l'Éthiopie.
Et vous sortez l'album Aime-moi avec un nouvel auteur, le franco-américain David McNeil, qui fait son apparition aussi dans votre vie. Je crois que c'est le fils de Chagall.
Oui.
C'est le fils de Chagall qui a été à vos côtés également. Et vous avez signé un des plus grands tubes des années 80, c'est Mélissa, je crois. 700 000 exemplaires. À l'époque, le 45 tours est même traduit en espagnol. C'est une chanson qui a beaucoup...
Mélissa, c'est pas trop dur à traduire en espagnol.
Qui a beaucoup voyagé.
Faire un effort.
c'est un titre qui a énormément voyagé, qui vous a mené, j'imagine, sur plein de scènes dans le monde.
Mmh, oui. Et puis, quand même, une certaine reconnaissance de la communauté qui me tient à cœur, c'est-à-dire de la communauté antillaise, on va dire. Donc, c'est une chanson... Moi, j'ai toujours essayé, j'ai eu quelques engagements dans ma vie qui étaient des engagements sociétaux, mais mon engagement principal, c'est un engagement artistique, musical. Si, à travers les chansons, on peut faire le pont comme ça avec certaines causes, tant mieux.
Et puis, avec votre métissage aussi,
ouais,
du sang qui coule dans vos veines.
Ouais.
C'est une chanson, finalement, sur laquelle il y a essentiellement la mélodie et des percussions, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des grandes envolées de clavier ou de guitare.
Ça a été produit par un producteur anglais et irlandais plus exactement qui s'appelle Chris Neal à l'époque. C'est lui qui m'a amené là cette espèce de battement parce que je lui ai joué la chanson comme d'habitude piano voix. C'est pour ça que je mets souvent dans les albums maintenant depuis 2-3 albums, je mets 5-6 chansons telles qu'elles sont comme je les compose.
Ouais, c'est ça.
Et comme ça, les gens peuvent voir la différence entre ce que je donne à mes arrangeurs et tout le chemin qui est parcouru pour que ça arrive au public. Mmh. Donc là, je lui ai donné, comme je fais pour toujours avec les arrangeurs des albums, je lui ai donné un truc piano-voix, voilà, où je chantais ça, et c'est lui qui a trouvé cette espèce de pulsation.
Pour en revenir à vos goûts musicaux, tout à l'heure on a entendu les Bee Gees, il y a aussi des Sia, des Stromae, des Christopher Cross, des Michael Franks, vous avez des goûts très éclectiques, très pop et pop-rock aussi. Est-ce que vous êtes capable, quand on est musicien, est-ce qu'on est capable d'écouter la musique sans disséquer toutes les pistes et sans écouter ce que fait la basse, la batterie, le clavier, la guitare?
Non, on n'est pas capable d'écouter ce que vous dites là. On a toujours un petit peu, effectivement, un travers professionnel qu'on ne peut pas complètement mettre de côté. Mais enfin, je suis quand même quelqu'un de très public quand j'écoute la musique et je suis pris au cœur où je ne le suis pas. Voilà.
Est-ce que c'est ces influences dont on parlait tout à l'heure sur les accords de Barbara, de Léo Ferré, les influences de Brassens, le sont aussi sur des Christopher Cross, par exemple?
Oui, c'est deux ADN, en fait. Dans cet album-là, il y a l'ADN français, et puis il y a tout ce qui est l'ADN anglo-saxon. Cette musique-là, on va dire, en gros, c'est la pop anglaise. Bon, je sais pas quel âge j'avais 16 ans, 17 ans. Ça, c'était révolutionnaire, tout d'un coup.
Vous a marqué dans cette pop anglaise?
Oui, les Beatles avant toute chose.
D'accord.
Mais aussi les Stones, qui sont le groupe que j'ai le plus vu sur scène, bien que n'étant pas, c'est pas vraiment entre guillemets ma musique, si vous voulez. Mais c'est cette pop anglaise qui, c'est à travers cette pop anglaise que j'ai découvert le rock'n'roll des Américains. Ça, c'est une question générationnelle. Si vous voulez, j'ai découvert Elvis après les Beatles, si vous voulez, à travers les Beatles.
D'accord.
Bon. Donc c'est la pop anglaise qui est la deuxième partie de mon ADN, voilà. Mais c'est un peu idiot ce que je dis, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y avait aussi Ray Charles, il y avait aussi le jazz. J'ai écouté du jazz très tôt dans ma vie. À 14 ans, quand j'ai connu Momo, mon copain Momo...
Maurice Vallée.
Au lycée La Canale, on s'échangeait des disques de jazz. Donc, moi, j'écoutais beaucoup de pianistes de jazz. Bobby Timmons en particulier, Fats Waller, Art Tatum, etc. Donc c'est une musique que j'ai écoutée très tôt, en même temps que Barbara, par exemple.
D'accord.
En faisant mes devoirs, j'écoutais Art Tatum et Ben Webster. Il y a des disques fantastiques de Art Tatum au piano et Ben Webster au saxo. Et donc c'est mon ADN, c'est un mélange de tout ça. Ce disque-là, c'est l'ADN français.
Très bien. On va parler avec Christophe Comte. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Qui a la gentillesse de venir à notre micro. Journaliste musical indépendant, mais qui est passé par tellement de rédactions. Libé, Vanity Fair, Numéro Magazine, Un Rock, j'en oublie. Puis des documentaires.
Une plume, Christophe Comte.
Également. Ouais, une plume et un cerveau. Truc qui est fou.
Généralement, ça va avec. Hein.
Bah, si t'as le bras.
Ah ben voilà.
Et quelle est la différence pour vous, Christophe, entre un tube et un classique, un standard? Un tube, c'est populaire, un classique, c'est intemporel?
Un classique, généralement, c'est un tube qui a bien vieilli. C'est-à-dire que c'est un tube qui est resté, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les tubes. Après, il y a des exemples de classiques aujourd'hui qui n'ont pas été des tubes. Le premier, moi, qui m'est venu à l'esprit quand vous m'avez sollicité, c'est Alléluia de Jeff Buckley, qui est à l'origine une chanson de Leonard Cohen, qui est passée totalement inaperçue en 83, je crois. Parce que
Leonard Cohen ne voulait pas que le texte et la structure de la chanson soient modifiées.
Voilà.
Beaucoup de demandes avaient été faites, il avait chaque fois refusé.
Voilà, elle a été modifiée une première fois par John Cale, et Jeff Buckley a repris la version de John Cale, et il en a fait finalement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui reprennent Alléluia à la Star Academy et qui ne savent même pas ni qui est Jeff Buckley, ni qui est John Cale, ni Leonard Cohen. Donc, ça veut dire que c'est un classique. C'est-à-dire que je vous entendais tout à l'heure parler de Gilbert Bécaud, Let It Be Me, Je t'appartiens. C'est un morceau que tout le monde a repris, de Bob Dylan aux Everly Brothers qui l'ont popularisé dans le monde anglo-saxon. Je pense que personne ne connaissait l'origine « Je t'appartiens » de Gilbert Bécaud. Donc c'est, voilà, et tout ça fait que les chansons, certaines chansons deviennent intemporelles et c'est ce qu'on appelle finalement des classiques. Après, des tubes, bah, y en a des millions qui...
Pour ouais, certains, tubes, c'est quand on a la popularité immédiate et qu'on a des centaines, voire des milliers ou des millions de disques qui se vendent. Le plus dur est de durer. Bien qu'il y ait des espèces de retours comme ça, comme des lames de fond de chansons qui reviennent, qui ont été peut-être même négligées, oubliées, parce que trop populace, vraiment le sens péjoratif de populaire au début,
ah oui, carrément,
et qui deviennent cultes ensuite.
Oui, alors il y a une chanson en ce moment qu'on entend beaucoup, je crois qu'elle est dans la BO de deux films, c'est Voyage, Voyage, par ouais, exemple, de Desireless.
Alors, Emmanuel Berco l'a mis en générique de fin de Son Vivant. Ouais.
Et elle est aussi dans une autre, un autre film un peu plus confidentiel qui s'appelle La jeune fille et l'araignée. Et donc du coup, bon, dans des versions très différentes, hein, le syndrome un peu Julien Doré, c'est-à-dire qu'on reprend un tube un peu populaire comme ça avec un...
Genre moi Lolita, mais voilà, en tendant le coup.
Donc ça, c'est quand même un syndrome de cette époque, mais du coup, il y a des chansons comme ça, Voyage, Voyage, a priori, lorsque c'est sorti, ça n'avait pas vocation à être une chanson qu'on allait entendre 30 ans après. Donc du coup, il y a des mutations un peu génétiques de certaines chansons. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a deux ressorts quand même très importants, c'est la publicité et le cinéma. C'est vrai que Chuck Berry, par exemple, avant Tarantino, cette chanson, elle a été perdue dans les limbes. Toutes les chansons qui sont utilisées dans ces fameuses pubs pour une grande enseigne de supermarché où on reprend Charles Trenet, Moulogy, sur des versions en plus très longues parce que c'est des publicités qui durent 3 minutes, on entend quasiment la chanson en intégrale. C'est des chansons qui aujourd'hui résonnent auprès d'adolescents qui les entendent et finalement qui savent absolument pas.
Ouais, elle pense que c'est contemporain.
Et puis il y a des séries comme.
Je pense pas, mais non. En tout cas, ça les marque.
En tout cas, non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on se pose plus la question de savoir quelle est la chanson d'origine. Original. On se contente de cet instant présent. Ouais. Ce qui est le cas aussi d'une série comme Glee, où il y a eu beaucoup de reprises de titres de Queen, entre autres. Et enfin, il y a beaucoup de BO. Bah,
Queen est vraiment le groupe, pour le coup, qui arrive aujourd'hui à avoir des tubes contemporains grâce à la publicité, grâce aux jeux vidéo, aux films. Il y a eu un jeu vidéo par exemple comme Just Dance, où tous les gamins dansaient sur des tas de trucs de toutes les époques, a fait que beaucoup de chansons sont devenues des tubes streamés, on va dire.
Et Don't Stop Me Now, mais quand même de bonne humeur qu'on le veuille ou non.
Don't Stop Me Now, évidemment. Et puis un autre tube aujourd'hui totalement intemporel, c'est celui de Mariah Carey au moment de Noël.
C'est pas intemporel, c'est calendaire.
Alors c'est calendaire, mais ça a remplacé. Nous, on avait vécu quand même 50 ans avec de Tino Rossi. Et depuis, Tino est...
On s'est encore fait avoir, tu veux dire, c'est ça ?
Tombé dans l'oubli.
Est-ce que vous avez en tête des classiques pour vous, des incontournables qui vous ont marqué ?
Y en a des centaines, mais il y a des tubes assez étonnants pour reparler de Queen et des Beach Boys notamment, c'est-à-dire Good Vibrations et Bohemian Rhapsody. Ce sont deux tubes énormes qui n'ont pas du tout le format tube, des chansons de 5 minutes avec 15 parties différentes.
Qui ne pouvaient pas passer à la radio
et dont les directeurs artistiques de l'époque ont dit qu'il ne faut surtout pas sortir ce truc-là, et ça a marché. Alors moi, évidemment, ce qui me marque, en plus là je viens de me taper les 6-8 heures de Get Back, donc forcément...
Alors c'est comment alors ? C'est sur Netflix, c'est ça, ou Disney, je ne sais plus ?
C'est Disney.
Disney ? Et alors ?
Ah bah c'est incroyable.
Alors c'est quoi ? C'est un documentaire sur...
Sur la fabrication de
l'album qui devait s'appeler Get Back, qui finalement est devenu Let It Be, mais c'est surtout fascinant parce que la chanson Get Back, on voit Paul McCartney arriver en studio avec une esquisse de chanson. Et cette chanson, au bout des 8 heures, devient évidemment le classique qu'on connaît avec... des choses qui interviennent. Et surtout, il y a une démystification de quelque chose qui pendant très longtemps a été Lennon et McCartney écrivaient séparément, avaient une signature commune, mais chacun amenait ses chansons. Ouais. En fait, on les voit, ils composent vraiment ensemble. Génial. Ils sont face à face et ils se jouent des parties et l'autre rajoute un truc, y compris dans les textes. Donc, c'est vraiment un truc fusionnel. Donc, ça, c'est vraiment fascinant. Et il y a d'autres choses.
Julien, j'imagine ce genre de doc que vous avez envie de voir. Ça.
Ah là là.
À propos de doc, quel est le prochain doc que vous préparez, Christophe Comte, spécialiste de doc, notamment Bachung qui marque Edao, qui avait marqué les esprits.
Non, Bachung, c'est pas moi,
non,
c'est Didier Varro.
Ouais, c'est Dao. Non, oui, c'est Dao.
Non, oui, j'ai fait un documentaire sur les Who. Je crois que vous êtes au courant, ouais. D'ailleurs.
Et ça passera sur Arte.
Sur Arte, probablement l'an prochain.
Bah, on aura le plaisir, en tout cas, de l'annoncer sur cette antenne. Et je rappelle l'anti-discothèque idéale, sans chef-d'œuvre auquel vous avez échappé.
Aucun tube dedans.
Non. Mais
c'est un angle. Hein.
La vision de Christophe Comte. Et je vous encourage à vous abonner au tweet de Christophe Comte parce que c'est un bonheur, c'est une sorte de revue de presse d'ailleurs. Et puis alors, dès qu'il y a des trolls qui tombent sur lui, ils se font bien tacler, comme c'est un bonheur de suivre Christophe Comte. Merci Christophe d'être venu
merci
à ce micro.
Vous.
Merci. Julien Clerc est notre invité jusqu'à midi et demi. Juste après les infos, de quoi parleras-tu, Tanguy ?
Eh bien, Nagui, je sais que vous attendez la déclaration de candidature d'Éric Zemmour parce que je connais vos idées. Eh bien, raté ma personnalité de la journée, c'est Joséphine Baker.
Ah bah enfin. La bande originale,
oh oui,
avec la Morgane Gadignan, Paul Mirabel, Tanguy Passion, Daniel Morin, Monsieur Julien Clerc.
Bonjour.
L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon.
L'important, c'est la rose. Ça fait partie de ces chansons qui ont été choisies par Julien Clerc. Il y a également Mon manège à moi.
Me fait tourner la tête.
Formi formidable.
Formidable.
On l'a pas encore écouté mais il y a 20 ans.
Pour tout bagage, on a 20 ans. On a des réserves de printemps.
Ouh, que c'est triste
Venise. Que c'est triste Venise. Lorsque les barcaroles ne viennent souligner.
J'ai ta
main. J'ai ta main dans ma main. Je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux.
Il y a dit quand reviendras-tu.
Quand reviendras-tu ?
Et comme dis. Vous êtes en tournée, Julien Clerc, aux Zénith de Saint-Étienne le 8.
Non,
ça c'est fait.
Non, tout ça c'est. Les Zéniths, c'est.
Ah bon, on m'a apporté la liste en disant c'est bon, on a vérifié, on a les bons.
Ah bon ? Non, je crois pas, non.
D'accord.
Je crois qu'il va falloir les regarder sur le site internet.
Voilà. Non, mais je parle de 2022.
À 2022, normalement, tous les Zéniths, je crois, c'est en novembre, mais là, je suis nul.
C'est dans un an.
Oui, c'est dans un an.
Très
c'est
bien.
Ça. Ah, voilà, ça, c'est des vraies dates.
Oui, c'est des vraies dates. Saint-Étienne.
Autant pour moi,
Saint-Étienne le 8, Dijon le 9, Montpellier le 16.
Novembre. Le 16 quoi ?
Oui. Novembre, toujours. Je suis toujours en novembre, 2022.
Voilà.
Je vais vous les donner, Julien, comme ça vous y serez aussi.
Merci.
Toulouse, le 25 novembre 22. Orléans, le 22.
On vous mettra dans le train,
22.
Oh, ça va, quoi.
D'ailleurs, quand vous dites autant, quand vous dites autant, voilà. Autant pour moi, c'est une expression de musicien.
Ah bon ?
Oui, puisque autant pour moi, ça s'écrit O-A-U, plus loin T-E-M-P-S, donc
comme
c'est autant au tempo.
C'est pas une expression militaire ?
Oui, dans la troupe, dans une fanfare, lorsque l'un se trompait, il disait pardon, j'ai commis une erreur, autant pour moi, et on reprenait autant sur le tempo.
Eh ben, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà.
On écoutez. Apprend plein de trucs avec Nagui. Ouais.
Non !
Un militaire qui dit pardon, excusez-moi, c'est une erreur ? Bien sûr ! Vous êtes sûr, Nagui ?
Julien Clerc est notre invité jusqu'à midi et demi. Les dates aussi sur. Alors là, c'est ce mois de décembre 2021, du 10, 11 et 12 décembre au Palais des Congrès Julien Clerc. Et tout de suite, Tanguy Passion.
Pendant que je suis là à faire le gugus à la radio avec les impôts des gens en plus, il y a des personnes qui bossent. Le président Macron, par exemple. Bon, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il est actif. Hein. Sa Smartbox Sex en Amazonie offerte par Nicolas Hulot en 2017, il n'a toujours pas eu le temps de l'utiliser. D'ailleurs, aujourd'hui, il panthéonise. Il a la vie d'un vigile de boîte de nuit. Il dit « Toi, tu rentres, toi aussi, toi non. » En 2018, il a mis là-dedans Simone Veil et son mari Antoine. En 2020, il a fait entrer l'écrivain Maurice Genevoix. Et cette fois, c'est Joséphine Baker. C'est son choix à lui. C'est sa Baker. Mais comme il fait froid, en grelottant, il a dit c'est ma Baker. Hein, et là-dessus, Jean-Yves Le Drian s'est mis hurlé, yes, c'est ma jeunesse, ça, il a dansé. Bon, bah. Alors, au Panthéon, il faut savoir qu'il y a plein de monde. Heureusement qu'ils sont déjà morts, sinon les règles de distanciation sociale s'appliquaient et c'est top VIP. Il y a Alexandre Dumas, Malraux, Pierre et Marie Curie. Avec les veilles, ça fait déjà deux couples. On se croirait au hammam, les naïades à Mâcon samedi soir, mais avec du contenu. Il y a aussi le héros de la résistance, Jean Moulin, le Florian Philippot des années 40 à 43. Et Victor Hugo, un costaud à barbe blanche, sorte de Captain Igloo d'avant l'ère du surgelé. Bref, que des stars. Hein. Quand on juge qu'elles ont fait du bien à la nation, zou, on les transfère au Panthéon et tout le monde est ému, sauf le panthéonisé, parce qu'une fois mort, qu'on vous mette là ou dans le jardin de Tantivette à côté de son coquard fifi, hein, pour vous, ça revient au même. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait faire entrer les gens au Panthéon de leur vivant. On leur ferait un CDI, le matin ils badgeraient, à 19h, soirée after work, ils diraient à leur date, tu vas pas me croire, mon métier c'est d'attendre que la journée s'écoule en ne faisant rien. L'autre répondrait, ah bon, c'est toi qui gères la campagne d'Anne Hidalgo. Enfin bref. Le problème de ce pays, c'est qu'on aime plus les morts que les vivants. À part Laetitia qui aime Johnny et Jalil. Alors, deux mots sur Joséphine Baker. Elle est née dans une famille pauvre, l'école de la vie, hein, comme Léa Seydoux. Elle voit le jour dans le Missouri et à 19 ans se taille à Paris, qui n'est pas une ZAD à l'époque, mais une ville. Un jour, elle a l'idée de se faire une ceinture de banane, ce qui ressemble à un god ceinture, mais pour 5 à 7 personnes plutôt branchées fruits. En 63, elle manifeste à Washington avec Martin Luther King, mais vu que l'autre sort son célèbre I Have a Dream, on s'en souvient plus trop. Ne jamais passer après quelqu'un qui fait sa meilleure prestation. Moi, pour mes premières parties de spectacle, j'ai demandé Marlène Schiappa, pour être sûr. Joséphine Baker, pendant la guerre, participe à la résistance, immense respect. Et pour ce qui est de la vie privée, elle adopte 12 enfants de toutes les couleurs. Hein. C'est elle qui a inventé les Teletubbies. Elle meurt en 1975 à Paris, ruinée par les achats, chaque mois de septembre, des fournitures scolaires. Alors Macron, qui est rusé comme un coquin de Goupil, ne panthéonise pas Joséphine Baker par hasard. Il fait ça, nous dit la presse, pour réconcilier la France. Parce que Baker, c'est le bingo du vivre ensemble. C'était une femme, one point, noire, two points, bisexuelle, three points, et un jour, en taillant un buisson, elle s'est ouvert un doigt avec un sécateur, donc on peut la mettre dans les handicapés, hein, fort. Voilà. Et tout le monde adore Joséphine Baker. Marine Le Pen a salué le fait qu'elle entre au Panthéon, Anne Hidalgo aussi, Fabien Roussel du PC aussi. Le seul truc à plus ressembler que Joséphine Baker, à plus rassembler que Joséphine Baker, en fait, c'est la raclette. Hein, faites le test chez vous, dites ce soir, on bouffe de la raclette, tout le monde fait « Ah !» Dites ce soir, Joséphine Baker entre au Panthéon, tout le monde fait « Ah !» Hein, la seule différence, c'est qu'après la cérémonie au Panthéon, les gens seront pas en train de suer comme des bœufs avec cette odeur dont on ne sait jamais si elle vient du fromage ou de papy. Alors, les chaînes de télé bousculent leur grille. TF1 va prendre l'antenne dès 17h15 avec Anne-Claire Coudray, la présentatrice des JT Week-end. Je pense qu'elle râlait, hein. Ouais, pas moyen de se reposer sur la vie de ma mère, faire ça un mardi. Bon, elle sera avec Gilles Boulot, mais il y aura aussi des historiens et Nicoletta. Il voulait Nolwenn Leroy, mais elle célèbre au même moment l'entrée aux eaux de Vincennes du loup, du renard et de la belette. Donc, souci d'agenda. Sur France 2, la chaîne des J'adore, comme vous le dites souvent, Nagui. Ce sera antenne dès 16h50
ah bon
avec Julien Bugier, l'effet grec à la voix d'or, mais aussi Nathalie Saint-Cricq qui est au brushing depuis avant-hier. Ils seront accompagnés de Stéphane Bern, l'homme qui connaît les 27 surnoms que Marie-Antoinette donnait à Louis XVI, dont Bébé et Gros Poussin, hein, et Sonia Roland qui a incarné Joséphine Baker dans un Woody Allen en 2015. Alors on dirait que c'est un film de Fabien Antoniente parce que Woody c'est plus possible, hein, cancel culture. Alors attention, France 2 promet également, je cite, le témoignage exceptionnel de Lynn Renault, voilà, hein, qui a bien connu Joséphine Baker, parce que Lynn la faisait sauter sur ses genoux quand elle était petite. Sur BFM, édition spéciale également, alors je vous dis pas les noms des intervenants parce qu'on ne les connaît pas, et sur CNews, alors véridique, rien de prévu. Marc Menon et Christine Kelly partiront plutôt sur une spéciale intitulée Clovis et Charles Martel, le duo chic et choc de la France qu'on kiffe. Enfin, hier sur TV5 Monde, la chaîne qu'on regarde à l'hôtel club défoncé par les spritz du bar Lounge, l'un des fils de Joséphine a révélé que la station de métro Gaîté est rebaptisée donc depuis aujourd'hui, Joséphine Baker, toujours cette passion pour les morts. Enfin moi j'aurais mis plutôt, je sais pas, station Amel Bent ou Michel Houellebecq si elle est pas très entretenue. Hein. Mais sinon je suis content que Joséphine Baker nous rassemble parce que c'était une femme bien. Donc ça veut dire que si on se retrouve tous en elle, c'est qu'on doit pas être totalement nul non plus. Donc des cœurs sur Joséphine Baker.
C'est moi qui suis sa petite. Non, 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 non.
Merci.
C'est chouette quand même.
Et Tanguy, tu seras sur scène aux Folies Bergères à Paris le 13 décembre.
Absolument.
Quel enchaînement.
Joséphine Baker est passée. Ouais.
Baker.
Exactement. Alors, vous vous êtes mis d'accord pour dire Baker,
oui, c'est
et
Baker.
Pas Baker.
Oui, ouais. Ouais, parce qu'elle ouais. voulait qu'on francise son nom de famille et qu'on dise Joséphine Baker.
Voilà, c'est Leïla qui m'a donné cette information juste avant la chronique. Ouais. D'où l'importance d'avoir des intervenants de qualité. Je ne pas des gens qui bégayent.
Et d'où l'importance d'apprendre.
Des pros, des professionnels.
On en apprend plein dans cette émission. Dans la culture. Ah, pardon.
Je veux juste dire un petit truc, comme il est question à un moment donné de Woody Allen dans votre chronique. J'ai lu hier un truc qu'il aurait dit. Vous me demandez une bonne nouvelle, j'en ai pas. Est-ce que pour le même prix, je peux vous donner deux mauvaises nouvelles?
D'autres nouvelles dans la culture, Leïla
Kadour. On va parler d'une guitare culte qui a été vendue 625 000 dollars à New York.
Elle est très accordée, celle-là.
Et à qui a-t-elle appartenu?
Kenji Girac.
Non, alors on va parler. Il faut trouver un groupe culte qui Nirvana. A eu une durée de vie très très courte.
Nirvana.
Un an seulement. Un an.
Tragédie.
Un an. Avant de vous donner l'extrait musical, on va quand même vous faire un peu deviner. Donc c'est un groupe culte, parce que le chanteur de ce groupe est une star mondiale. C'est un groupe qui a mal fini parce que l'un des membres est mort dans un accident de voiture, l'autre, quelques années après, est mort de maladie après avoir consommé beaucoup trop de drogue, et le dernier a tué sa mère dans une crise de schizophrénie.
Ah bah c'est les Sex Pistols?
Non.
Ah bah non, il n'a pas tué sa mère.
Non. Alors un disque musical, le premier, vous êtes prêts?
Ah bah
non, ah non, c'est Clapton. Clapton,
mais... c'est Clapton.
C'est Cream.
C'est Derek and the Dominos.
Derek and the Dominos, c'est ça. Oui.
Seulement d'accord. Une année de durée de vie pour ce groupe.
Enfin, c'est l'extrait, c'est Clapton seul, hein. C'est pas avec Derek.
Non, c'est vraisemblablement c'est la version de Derek and the Dominos qu'on a demandé.
Oui.
Ah bon ouais, absolument.
Hein, j'ai l'impression que Derek est pas là, non?
Et bien.
Comme Leïla, c'était surtout.
Non, enfin, c'était, c'est Derek and the Dominos. C'est leur seul. C'est leur seul grand tube, et c'est la guitare sur laquelle Eric Clapton jouait qui vient d'être vendue 625 000 dollars, c'est complètement fou. Alors le summum pour la vente d'une guitare, c'est Kurt Cobain, tu l'as évoqué tout à l'heure, plus de 6 millions de dollars en 2020 pour sa guitare lors du fameux concert MTV Unplugged en 93. Quel rapport vous avez avec vos instruments, vous, Julien Clerc?
Lesquels?
Non, Julien.
La musique, non, mais c'est, on parle de musique.
J'ai un piano qui m'a suivi, qui est le seul meuble qui m'a suivi dans tous mes déménagements. Or, j'ai énormément déménagé dans ma vie. Et c'est mon piano. Je l'ai depuis... J'ai commencé à chanter en 68. J'ai acheté ce piano, je pense, en 70, je pense. C'est pour le disque Terre de France, que nous avions fait à l'époque dans une maison à la campagne. On avait enregistré dans la grange, parce que c'était à la mode de faire ça. Et depuis, j'ai gardé ce piano et je l'ai emmené tout partout avec moi. C'est lui.
Est-ce que vous avez des objets fétiches, genre des tenues de scène, des micros particuliers?
Non, c'est
que
pas
sais-je.
Fétiche. Je les garde de temps en temps. J'en donne pour des charités, par exemple.
Vous gardez les disques d'or que vous avez reçus dans votre carrière aussi?
Bah, il y en a une partie. Oui, non, je les garde, oui, mais enfin, bon, ils sont dans des cartons. J'ai pas.
Alors maintenant,
je suis pas très fétichiste, faut dire la vérité.
Non, faut dire la vérité. J'ai eu la chance d'être invité à dîner chez Julien Clerc et tous les disques d'or étaient au mur des toilettes. C'est-à-dire que tu dis,
est-ce grande
que
toilette, hein.
Je peux aller me laver. Il y avait un couloir pour aller aux toilettes.
Ah, d'accord.
Je peux me laver les mains? Oui, bien sûr.
Mais ça, c'était dans une autre maison. Vous avez raison.
Mais non,
j'ai
mais
fait ça.
Mais... Tous les disques d'or étaient aux chiottes. Oui, je trouve ça formidable.
Maintenant, il y en a plus. C'est pas qu'il n'y a plus de chiottes, c'est que les disques d'or sont dans des cartons.
Voici Daniel Morin et le héros du jour.
Oui, voilà. Alors, chers amis, mon héros du jour aurait pu facilement être aujourd'hui Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Oui, cet homme de Dieu est dans l'attente d'une réponse du pape. Il a écrit au très Saint-Père pour lui présenter sa démission. Il veut rendre sa soutane, raccrocher le crucifix, faire une croix sur la Sainte Hostie. Motif, il a eu un comportement, entre guillemets, ambigu avec une femme. Mais c'est ça qu'on veut, messieurs les curés, on veut des comportements ambigus avec des femmes majeures et consentantes. Si vous m'écoutez, Monseigneur le Pape, n'acceptez pas la démission de Michel Aupetit, donnez-lui plutôt une promo malgré son comportement ambigu. En l'occurrence, vive l'ambiguïté. Malgré tout ça, les amis, Michel Aupetit n'est pas mon héros du jour. Mon héros du jour est America. Mon héros du jour, c'est Charles Doty Jr. Charles a 63 ans, il habite Knoxville, Tennessee, et comme on dit chez Nadine de Rothschild...
faut pas faire chier les gens dans le Tennessee. Il y a quelques jours, Charles, il veut manger une pizza. Il va à la pizzeria et il commande
une pizza.
Le souci, ouais, c'est que Charles, parmi ses qualités, il n'y a pas la patience. Non, il n'est pas patient, mon Charlie. Et quand le pizzaiolo lui dit « Hey, il y a 10 minutes d'attente !» Ben, mon Charles, il perd un peu son sang-froid. Il sort un fusil mitrailleur et il menace le pizzaiolo.
Ouais.
Alors, bien sûr, d'aucuns diront « Ah, oh, mais c'est un dingue ce mec, faut l'enfermer, ça se fait pas de sortir un fusil mitrailleur pour une pizza, il mérite la tôle. » Ah ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, il a raison, Charles Dottet Jr. Oui, absolument, il a eu raison. Quand on a faim, on a faim. Et quoi de meilleur quand on a faim qu'une bonne pizza? Une bonne pizza bien chaude, bien grasse, dont chaque bouchée vous transporte vers le paradis de la satiété heureuse et gourmande. Et ça, il le sait, Charles. Il ne le sait que trop. Du coup, quand le pizzaiolo lui dit que ça va prendre 10 minutes, il devient fou, Charles. Il devient maboule. Il pense, et il a raison, que c'est beaucoup trop 10 minutes. Depuis quand faut 10 minutes pour faire une bonne margarita, hein? Depuis quand, feignasse de pizzaiolo? Et il mérite mieux, Charles. Oui, il mérite. C'est pourquoi j'en appelle directement...
À qui?
Au président de la République.
On dirait, non, oui. Pas aujourd'hui.
Monsieur le Président, Emmanuel, en écoutant ma chronique, vous vous rendez bien compte que Charles Dottet Jr. est un homme exceptionnel. Oui, il est impatient. Oui, il est violent. Mais 10 minutes pour une margarita, c'est insupportable. Je vous demande donc de proposer à Charles de rejoindre le gouvernement en devenant ministre de l'efficacité dans les pizzerias françaises. Avec lui, la margarita et la calzone seront plus vite dans les assiettes et dans les estomacs pour le plus grand bonheur des populations affamées. La pizza mérite son Charles Dottet. Charles Dottet est mon héros du jour. Un héros, quatre fromages.
Merci, Daniel.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Julien Clerc,
c'est
le
vrai que ça
nouvel
vous tire un petit rectus.
Mais ouais, obligatoire, obligatoire. Il y a une chanson cachée, j'ai le droit de la passer ou pas?
Bah bien sûr, hein, ça fera plaisir à Barbe Olivier quand on a écrit des paroles.
Moi j'étais simple spectateur, sous le soleil des projecteurs.
J'adore l'idée de la chanson cachée. C'est comme le cadeau auquel on s'attend pas en disant non, mais c'est bon, là j'ai tout déballé. Non, t'as oublié là, il y en a encore là, caché.
C'était difficile de mettre cette chanson-là au début ou à la fin de toute cette liste de super chansons. Ça aurait été
parce
un
qu'elle
peu...
est pourrie.
C'est pas qu'elle est pourrie, mais ça aurait été un.
Non, mais pourquoi vous dites que c'est difficile de la mettre?
Parce que je la mets pas sur le même plan, cette chanson-là, bien qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle soit bonne, Didier et moi. Je la mets pas tout à fait sur le même plan que toutes ces grandes chansons.
Alors, des chansons de la tournée, parce qu'on imagine bien qu'il y aura évidemment les jours heureux. Je pense que mon refuge, on est obligé d'y passer quand même, non?
Ah, bah oui, alors.
Voilà. Des incontournables sont. Pas sûr, ok.
Pas sûr celle-là. Oui, bien sûr.
Ouais, ça, ok, d'accord, incontournable.
Bien sûr,
ok.
Oui.
Incontournable, très bien.
Souffrir par toi.
Non. Pas cette fois-ci.
Pas cette tournée.
Non plus.
Si on chantait.
Ouais.
Ah, j'adore ce jeu.
Non.
Ah non, non,
c'est pas faut changer un peu.
Oh, je suis déçu. Je suis déçu.
Fais-moi une place.
Moi aussi.
Fais-moi une place.
Te chercher.
Oui.
Ah, il sera. Ah.
Tremblant.
Je reviens te chercher, chanson que vous interpréterez, encore merci d'ailleurs, dans un spécial Taratata pour lutter contre le cancer. Ça sera sur France 2 en prime avec de nombreux invités. Vous étiez 44 artistes à nous faire le plaisir de venir chanter en duo les uns et les autres. Vous, c'est avec Arkem.
Ah oui, c'est excellent, Arkem.
C'est pour l'avoir revu là en travaillant. C'est un formidable moment. Encore merci de nous l'avoir offert. 10, 11, 12.
T'es sûr?
Décembre, oui, je suis sûr, au Palais des Congrès, Julien Clerc. On parlait des chansons de Gilbert Bécaud. Tout à l'heure, on a beaucoup évoqué une chanson qu'on n'a pas écoutée, celle-là.
Je t'appartiens.
Ça, c'est la première version de
tout
t'appartiens.
Être
et voilà ce que les Everly Brothers en avaient fait.
Let it be me.
Eh ben, c'était mieux.
Don't take this head.
Autre ambiance.
Les jours
heureux. Pourquoi avoir choisi ce titre de Jours heureux? Il y avait tellement d'autres titres.
C'est un double titre, je crois. Les Jours heureux, c'est évidemment l'époque, là, on va dire entre mes 10 ans et mes 15 ans, où tout d'un coup les goûts musicaux se forment et où la porte est grande ouverte sur l'avenir. C'est forcément des Jours heureux. Et puis, je dois vous dire que je pensais naïvement que cette saloperie de Covid serait finie. C'est pas tout à fait le cas, mais il va falloir s'habituer à vivre avec.
Oui, c'est une forme de carpe diem aussi.
Je me disais, le retrouver le public, ouais, ça ne peut être que des jours heureux.
Et retrouvons le bonheur, en effet, et gardons ces gestes barrières qui nous protégeront et nous permettront de continuer d'aller au concert, assister à des spectacles, que ce soit musicaux, que ce soit au théâtre, à l'opéra, et bien sûr au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour tout le département marketing de la maison de disques de Julien Clerc, qui est tombé en totale dépression après avoir entendu le slogan, même la punchline de Julien pour vendre un album de reprise.
Je devrais pas vous dire ça, mais normalement, personne ne peut faire mieux que les créateurs.
C'est la pire phrase du monde de la promo. C'est la pire. Bon, bah là, c'est mort. Hein. Bah, revenez la semaine prochaine pour un nouvel album. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolé pour les fans de Julien Clerc qui ont découvert ce matin qu'il risquait juste la ruine en achetant tout ce qui sortait de Julien Clerc, à savoir un coffret, un album de reprise, son fer à friser, un buste de lui en bronze, sa Kalachnikov d'occasion, un enfant de 4 ans. C'est vrai que c'est dur à suivre. Hein. Désolé enfin pour nos rares auditeurs joyeux qui ont trouvé que reprendre Barbara, Léo Ferré et Brel pour un album qui s'appelle Les Jours Heureux est un choix étonnant, mais c'est juste un paradoxe. Hein. D'ailleurs, je peux vous annoncer la sortie prochaine des Jours Sordides, une nouvelle sélection de reprises de Julien Clerc, avec notamment...
La, 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 la. Je suis Frida ou papa.
Ou encore...
Il le chante très bien, Julien.
En duo avec Nagui, peut-être.
Cultissime, évidemment.
Ou encore...
Oh non,
eh ben oui, on a hâte, nom de Dieu, on a hâte.
Merci Julien d'avoir été notre invité. On a envie de vous dire qu'une seule chose.
Dis, quand reviendras-tu?
De toute façon, plus enjoué quand même. Hein.
En tout cas, c'est quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu à ce micro. En tournée, Julien Clerc et des...
On parle des dates?
Oui. 10-11-12 décembre au Palais des Congrès et en 2022 partout en France. Demain, Fabrice Lucchini sera notre invité.
Oh bonjour. Là là, vous allez vous cultiver, les gars.
On va prendre une leçon, Olivier.
Lui aussi, hein. Lui
on
aussi.
Va faire des chroniques courtes. Hein.
Ou pas. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée. À demain.